Allez. Donc, cette semaine, il n'y a pas de paracha à Shavua, puisque c'est Soukhot, et donc on va faire un spitora sur Soukhot. Et en cet honneur, on va parler d'un Rav que probablement personne connaît, ou très peu, qui s'appelle Rav Yechiel Yaakov Weinberg. D'accord ? Il y a en fait, dans des contemporains, il y a des Weinberg anciens, mais dans les contemporains, il y a deux Rav Weinberg, je crois que c'est des cousins. Il y a Rav Noach Weinberg, que tout le monde connaît, qui a fondé la yeshiva Esh HaTorah à Yerushalayim. À Yerushalayim, il y a une grande yeshiva américaine pour les Baal et Tshuva. C'est comme un campus, c'est immense. Et il fait un travail énorme. Il est une star maintenant, c'est Rav Noach Weinberg, c'est un très très grand ami de Raham. Il a fait un énorme travail sur les étudiants américains. Et un deuxième, et lui est très connu, et un deuxième qui est connu mais beaucoup moins, parce qu'il est un homme très discret, et pourtant vous allez voir la puissance de cet homme-là, il s'appelle Rav Yechiel Yaakov Weinberg. Qui est Rav Yechiel Yaakov Weinberg? C'est un Rav qui est né au fin du 19e en Pologne, et donc c'était un très grand Raham à son époque. Il était en Pologne, il a étudié à Mir, il a étudié à Slabodka, et puis ensuite, il a été rabbin en Pologne, et puis ensuite, il a été rabbin à Berlin. D'accord? Il était directeur du séminaire rabbinique de Berlin. D'accord? Alors, les séminaires rabbiniques de Berlin, c'est ce qui formait les grands rabbins de l'époque. Donc, c'était universitaire, en réalité. Vous allez voir pourquoi je vous raconte tout ça. Et lui, mais c'était des grands Talmidei Chachamim qui étaient là-bas, des grands rabbanim. C'est-à-dire souvent, bon, les séminaires rabbiniques, c'est pour former des cadres communautaires, mais c'est pas des yeshivot, d'accord? Tu vas à la yeshiva, non, je vais au séminaire rabbinique, c'est-à-dire c'est seconde zone, quoi. À l'époque, les séminaires rabbiniques, c'était des grands Chachamim, et donc lui, il était ce directeur-là. À tel point que c'était un grand homme, c'est que pendant les années où il a été en service à Berlin, il a eu la visite pour venir écouter chez Shiurim du futur Rabbi de Lubavitch, le fameux Rabbi de Lubavitch. Bon, ça c'était des... Il y a des épisodes un peu obscurs dans la vie de chacun des rabbinim. C'est des choses qui ne sont pas connues, mais le Rabbi de Lubavitch a fait des études universitaires. Il a été à la fac, il a fait un diplôme, un master de chimie pendant plusieurs années. Et donc il allait à la fac avec sa Gemara, il écoutait les cours en amphithéâtre, etc. Enfin, des trucs phénoménaux, quoi. Il a eu son diplôme en chimie. Et donc pendant la période où il était à Berlin, il faisait ses études, il allait au séminaire rabbinique écouter le Rav Weinberg, écouter les shiurim de ce séminaire-là. Et on dit que c'est le Rav Weinberg qui lui a donné sa première smicha. Parce qu'en réalité, c'était un jeune, il était le gendre du futur rabbi. D'accord? D'ailleurs, si je me trompe. Pardon. Il était le gendre de l'ancien rabbi, maintenant. Pardon. D'accord? Enfin, le rabbi Menachem Mendel, il était le gendre de l'ancien rabbi. Et donc, il a continué ses études là-bas. Et le Rav Weinberg, il lui a donné sa smicha. Il y a un épisode qui est connu, c'est qu'un soir il est venu écouter un des shiurim, et donc le Rav Weinberg, il a vu un petit jeune comme ça, il a dit alors, non, j'étudie, il a expliqué qu'il était, bon, comme il était le genre du rabbi, il avait déjà de la prestance, il lui a dit, mais tu sais bien étudier, ben oui, il n'y a pas de problème, il dit, j'aimerais d'ailleurs bien que vous m'interrogiez, pour avoir la smicha. Il dit quoi, comme ça? Il dit, sur ce que vous voulez. Il dit quoi, sur ce que je veux? Il a dit, bah oui, demandez-moi ce que vous voulez. Et le Rav Weinberg, il avait écrit un livre, donc c'est lui le Rav Weinberg, à sa photo, il y aura sa photo dans la speed. Il avait écrit un petit ouvrage sur le déterrement des os des morts. Un truc technique, mais technico-technique, un truc très complexe. Pinouille, Atzamot, Amet. D'accord? Comment on fait pour déblayer les ossements humains, la touma, le ci, le ça? Un petit recueil d'une centaine de pages ultra complexe. Il a dit, tiens, essaye d'étudier ça, je t'interroge. Pas de problème. Donc le rabbi, il l'a pris, il l'a descendu dans la nuit, mais bon, c'était un génie, lui, le rabbi. Il lisait une page, il la retenait par cœur. Le lendemain matin, il est arrivé, il a interrogé, il connaissait déjà tout par cœur, à l'endroit, à l'envers, il a dit, allez hop, voilà, je te donne ton diplôme. Il a vu que c'était un homme particulier. Et donc, le rabbi a eu sa première smicha de ce Rav Weinberg. D'accord? Donc, c'est un grand homme. La guerre a passé, et en 39, donc il a été capturé par les Allemands, comme il était en réalité, il était citoyen au départ, citoyen russe, donc ils l'ont mis avec des prisonniers de guerre russes, etc. Et il en reste une de feuille. Ah voilà, bah, tiens, ouais, tiens, tiens, Mikhaïl. Et donc, il a été emprisonné à la prisonnière russe. Et à la fin de la guerre, en fait, c'était un homme brisé. Il était dans les camps, etc. C'est toute une période de sa vie qu'on ne connaît pas très bien ce qui est passé, en particulier ce qui est passé avec sa famille, etc. Je crois qu'il a perdu toute sa famille. Et il a terminé la guerre brisé. Et donc, il y avait un de ses élèves qui habitait en Suisse, qui l'a fait venir à Montreux, d'accord, qui s'appelle le Rav Weingort. Bon. Et il l'a hébergé, d'accord, il a été hébergé dans un endroit à Montreux, au fond de la Suisse, donc rien à voir avec personne. À la Montreux, il y avait la yeshiva de Rav Botchko, c'est une très grande yeshiva, oui, une très grande yeshiva à Montreux, hein. Ils sont tous partis. Si, il y avait le fils de Robotchou qui est Montreux. Montreux, en Suisse.
Ouais, je connais.
Il y avait une
bien.
Grande yeshiva.
Ouais.
Ah bah, avant la guerre, à la fin de la guerre. Et donc, lui, il est
résiste encore.
Non, c'est fini. Ah, ouais, ils sont partis en Eretz Israël.
Ah,
mais elle a existé pendant longtemps. Et donc, je termine. Et donc, il a été hébergé par ce Rav Weingort. Or, malheureusement, ce Rav Weingort-là, il a eu un accident de vélo. Il a été renversé par une voiture. Il est mort. Et donc, il s'est retrouvé de nouveau abandonné, parce que c'était lui qui l'hébergeait. Et la femme de Rav Weingort, elle était une jeune femme, elle avait déjà des enfants, elle l'a ils l'ont hébergé, ils lui ont donné un endroit, ils lui ont amené à manger tous les jours, tous les Shabbatot, et pendant des dizaines d'années, il a été hébergé par cette famille Weingort. Tout ça pour dire qu'après, il y avait un des enfants Weingort qui s'appelait Abba Weingort, qui est devenu un Talmid Chacham, et qui est devenu un juriste, et donc il est mort dans l'anonymat, le Rav Weinberg, alors que c'était une lumière. D'accord, il allait même plus à l'Yeshiva, il répondait à des lettres, mais il est mort totalement dans l'anonymat, et après ils l'ont emmené en Eretz Israël, et il était juste avec la famille qui l'ont hébergé jusqu'à la fin. Donc c'est toute une période très sombre de cette histoire, on ne connaît pas très bien. Et le fils donc de celui qui hébergeait du Rav Weingort, Abba Weingort, à la fin de sa vie, donc il a étudié, c'était comme son père, d'accord, puisque c'était l'ami de son père. Son père est mort, il a grandi. Ouais. Il a grandi sur les genoux du Rav Weinberg, il ne faut pas se mélanger. Hein. Weingort, c'est l'élève, et Weinberg, c'est le Rav. Et quand le Rav est mort, il a pris sur lui de rééditer tous les ouvrages. Et donc, depuis, l'édition des ouvrages de Rav Weinberg se fait par ce Rav Weingort, qui est vivant, c'est un grand juriste de renommée internationale. Et pour vous dire simplement qui fait partie du comité d'édition, vous avez. Le Rosh Yeshiva de Getzed, Rav Rakov, vous avez le Rav Volbe, qui était un des élèves de Rav Weinberg, et il y a aussi Rav Bachidor, enfin, il avait des élèves phénoménaux, je veux dire, quand vous dites un de ses élèves, c'était le Rabbi Lubavitch, le Rav Volbe, le Rav Rakov, c'était vraiment une pointure, mais une pointure anonyme. Et donc, ce Rav Weingort maintenant, il s'est efforcé, il a publié ses Shelot u'Tshuvot, il a publié ses écrits sur le chasse, il a essayé de publier un commentaire sur la Haggadah, enfin, il essaye de publier, de diffuser l'enseignement de ce Rav Weinberg, d'accord? Donc, nous, on va faire un texte relativement simple. Donc, quel style c'est? C'est judaïsme allemand intellectuel, hein, c'est pas du tout de la chassidoute, etc., même si, peut-être, certainement, il connaissait. En tout cas, c'est plus intellectuel que chassidoute. Voilà, tout ça, c'était pour introduire ce rave, et je trouvais que bon, c'était important, parce que sinon, jamais personne n'en parlera. C'est rare qu'on en parle, non, qu'on étudie, il y a déjà peu de textes, et c'est un peu dur comme approche, donc c'est du vrai limoud, d'accord. En tout cas, voilà, vous aurez entendu parler de ce rave, Yechiel Yaakov Weinberg. Et donc, ces écrits, on les appelle Sridehesh. On les a ici, on a ici ces Shelot u'Tshuvot, on a ces commentaires sur la Gemara, etc. Et Sridehesh, ça veut dire les restes du feu, d'accord. Les restes de la braise, si vous voulez. Sridehesh, ce qui reste, les cendres, pas les cendres, ce qui reste du feu, les petites étincelles de flamme qui restent. Alors, il dit ceci. Bon, mais c'était pas pour plomber l'ambiance, hein, mais ça reste quand même une histoire très, très triste quand même. Alors, shtei mitzvot amerkaziot shel Sukkot. Il y a deux mitzvot centrales dans Sukkot. Chacun connaît. Mitzvot arba minim ou mitzvot Sukkah. Les quatre espèces et la Sukkah. D'accord? On prend quatre espèces. Alors, quand on dit les quatre espèces, mais en tout cas, vous avez 7 branches, puisqu'elles avaient 3 myrtes, 2 sols, ça fait 5, la branche de palme et le hétrog, ça fait 7. Donc vous avez 4 espèces, mais vous avez 7 branches, d'accord? Pourquoi c'est important ça? Parce qu'en réalité, et c'est aussi je trouvais important, c'est que vous allez voir ici une approche totale, intellectuelle, on va dire de pshat, les mitzvot. Alors qu'en parallèle, on sait que les mitzvot de la soukha, elles sont très ésotériques. Par exemple, quand on a parlé des quatre espèces, le loulav, le hétrog, le rava et le hadas, d'accord? Dans le Zohar et dans tous les commentateurs ultérieurs, les chassidout, etc., et le Rachaim Akadosh, c'est clair que les quatre espèces, c'est les quatre lettres du nom de Dieu. Le yud, le he, le vav, le he, c'est le hétrog, le vav, c'est le grand, c'est le loulav, etc. Donc les quatre espèces, ça représente le nom de Dieu. Et la soukha, encore pire, la soukha, le mot soukha, c'est les lettres du nom de Dieu en, comment, kikriato vektivato, ce qu'on dit dans soukha veloulav. Donc le mot soukha, ça représente les lettres du nom de Dieu. La soukha elle-même, c'est se trouver sur les ailes d'Hachem, d'accord? Donc il y a une vision totalement mystique, ésotérique, à la fois des quatre espèces et à la fois de la soukha, d'accord? Et ici, il ne rentre pas du tout là-dedans, en tout cas, il n'a pas l'air d'y rentrer. Ok? Oui? Avant même d'aller plus loin, pour continuer le regard ésotérique sur les mitzvot, vous savez que ça, c'est des notions qu'on a peut-être abordées, c'est des notions un peu complexes. Il y a dans le monde deux manifestations d'Hachem. D'accord? C'est des termes mystiques, mais il ne faut pas avoir peur. Il y a Or Makif et Or Penimi. La lumière extérieure et la lumière intérieure. Le Or Makif, c'est la manière dont Hachem, il englobe le monde. D'accord? Makif, c'est entourer le monde. Et Or Penimi, c'est la manière dont Hachem, il est dans l'intérieur du monde jusqu'au plus petit détail, de façon simpliste. D'accord? Et c'est deux dévoilements de la lumière divine. Or Makif, Or Penimi. Or, vous vous rendez bien compte que Or Makif, Or Penimi, c'est la soukha. La soukha, c'est Or Makif, puisqu'on est entouré de la lumière d'Hachem. On rentre sous les ailes d'Hachem quand on rentre dans la soukha. Et les quatre espèces, dans le détail, c'est Or Penimi. C'est la lumière intérieure qui va se mettre dans le détail de chaque espèce. Ok? Donc on voit que, sans aller très loin, toute la fête de Sukkot, elle recouvre beaucoup de notions mystiques. Jusqu'à là, vous me suivez? Maintenant, je suis à la troisième ligne. Je reprends maintenant. J'te mitzvot amerkaziot shel Sukkot. Les deux mitzvot centrales de Sukkot, eh bien, mitzvot arbaat mini ou mitzvot sukkah, matzigot, elle présente, est à izun, l'équilibre, veshivuya mishkal, et l'égalité de poids d'importance, ben shne akavim, entre les deux directions, d'accord, vous voyez, c'est un langage très fouillé, hein, c'est un langage intellectuel, ben shne akavim, entre les deux directions, shiesh bechaye adam israel, qu'il y a dans la vie d'un juif, d'accord, souka, et loulav, ce qu'on dit d'ailleurs, oui, quand on dit soukha et loulav, rappelez-vous, parce que le loulav étant le plus grand, c'est lui qui désigne l'ensemble des quatre espèces. Donc on dit soukha et loulav, c'est la soukha et les quatre espèces. Ok? Eh bien, soukha et loulav, lui il dit, à part toute la vision ésotérique dont on a parlé, ça représente les deux grandes directions qu'un juif doit emprunter, qui sont, cinquième ligne, kav ayachid ve'aprat, la ligne du particulier et du détail, Vekav et la ligne, Atzibur de la communauté, Veaklal et du groupe. D'accord? Dans la vie d'un juif, elle se partage entre deux tensions, la tension de l'individualisme et la tension de la collectivité. Ok? Un juif, il est partagé entre ces deux mouvements. Il y a un mouvement de chaque ben Israël de s'occuper de lui et d'avancer et de progresser, et à l'inverse, il y a une obligation et il y a une tension qui l'amène vers le klal. Il dit pourquoi? Qui arbat un minim, parce que les quatre espèces, metzainim, elles mettent en valeur tsiun, et à evdelim, les différences, chez ben kol pratu prat, qu'il y a entre chaque détail des individus juifs. Vous savez très bien, atam ve'areah, le goût et l'odeur, amyuchadim, qui sont particuliers, les chol yachid ve yachid, pour chaque individu. Vous savez que dans les quatre espèces, que dit le Midrash, eh bien, vous avez la date, d'accord, le loulav, c'est la date, c'est le palmier. La date, elle a du goût, mais pas d'odeur. Le étrog, il a du goût et de l'odeur, le cédra. La myrte, elle a de l'odeur, mais pas de goût. Et la arava, le sol pleureur, il a ni odeur, ni goût. Or, le Midrash dit, ça représente les quatre types de juifs. Odeur et goût, c'est l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Il y a ceux qui ont les deux, il y a ceux qui ont un des deux, il y a ceux qui n'ont aucun des deux. D'accord ? Et donc, en réalité, les cas, et le fait de les assembler, d'accord, montre que c'est eux qui vont constituer le groupe. Mais malgré tout, on individualise chaque espèce. Ok ? Chacun est à part. Donc, il dit que les quatre minimes, le loulav, ce qu'on appelle le loulav, et les quatre espèces, ils mettent en valeur l'importance de l'individualité. Puisque on exprime la valeur de chacun. Est-ce que toi, tu as beaucoup de Torah, beaucoup de goût, beaucoup d'odeur, un petit peu de chaque ou rien du tout? Eh bien, tu seras représenté. Tu es de toute manière là. Même ceux qui ont rien, ni goût ni odeur, ils font partie du peuple juif. Donc ça, c'est la ligne du Yahid, la ligne du particulier. Arbat Aminim, je suis au point, vous êtes bon? Les quatre espèces, M, Bitouille, c'est des mots choisis, hein, sont l'expression, les Dargot, Beruchaniyut, des niveaux spirituels, Bemidot, dans les qualités humaines, ou même à Chachava, et dans la réflexion. D'accord? Ça exprime, effectivement, les différences de nature entre les individus. Le prat. Benosaf, en plus, ça c'est un chidouche, Arba Aminim, les quatre espèces, Em Chilukim, ils sont différents. L'orak ben Gavra les Agavra, ils expriment la différence plutôt. Pas seulement entre un individu et un autre, c'est pas toi tu es le loulav et toi tu es l'étrog et tu es la rava, c'est vrai. Et la ben matzavim rouchanim, mais ça exprime également des états spirituels amitralefim variables ou baim lishkon qui viennent résider berucho dans l'esprit chez l'adam ayachi du particulier. Et ça c'est très intéressant, c'est la première fois que j'entends ça, qu'en général quand on voit les quatre espèces, on dit oui, ça, celui-là, le hétrog, qui est bon goût, bonne odeur, ah, ça c'est le rama, la grande barbe, c'est les grandes sadikim. Ça c'est moi, et celui qui a, ben, c'est lui. Celui qui a le sol pleureur, c'est le hamar, d'accord? C'est lui là, tu vois, lui, c'est Benkumun. Et ça, chacun, on met des étiquettes sur les quatre espèces. Alors lui, il dit, c'est pas seulement ça, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus portés comme ça, il y a des gens qui sont portés sur rien du tout. Mais en réalité, ça exprime aussi les variations que chaque individu a. C'est-à-dire, un jour tu es loulav, un jour tu es étrog, et un jour tu es rien du tout. Un jour tu te lèves, tu as les vers, ni ça te dit les mitzvot, ni ça te dit la Torah, tu ressembles plutôt au sol pleureur. Tout ce que tu as envie, c'est de pleurer. Le lendemain, tu as un peu d'odeur, tu ressembles à la myrte. Et puis il y a des fois où tu es la tête haute, tu es loulav, et des fois tu es le étrog. Vous voyez, c'est ça qu'il dit. Donc ça exprime non seulement les individualités, mais les variations, on va dire, de régime dans un même individu. D'accord? Donc c'est vraiment l'expression du prat. Ok? Vous êtes bon jusque-là? Ah, cependant, à Souka, à l'inverse, la Souka, ibitouy litkalelut. Elle est l'expression de la globalité, klal. Comme d'ailleurs a dit la Gemara, kol Israël reoim le chef besouka achat. Tout le peuple juif, ils sont aptes à habiter dans une seule souka. D'accord? Normalement, ils pourraient. Alors bon, ça y a des commentaires sur Gemara, mais théoriquement, on peut tous habiter dans une seule souka. Et ça va encore plus loin. À Kol Shavim, quand je termine la phrase, tout le monde est égal, Venichlal est inclus Beyachad, en même temps Bechalala Shel Souka. C'est-à-dire la souka, elle efface les individualités. Donc autant, donc il y a cette double tension dans la fête de Sukkot où on a à la fois la mise en valeur des qualités individuelles et des différences individuelles et à la fois l'oubli de l'individualité par le biais de la Sukkah. Ah ouais. Or, ça s'exprime même dans la Halakha, parce que ceux qui se rappellent un petit peu, il y a une différence fondamentale entre Souka et Loulav. C'est que le Loulav, en tout cas pour le premier jour, il doit être à toi. Il y a une notion de propriété. D'accord? Tu dois l'acheter. Tu ne peux même pas l'emprunter. D'accord? Cette année, comme ce n'est pas Minatora le deuxième jour, on peut l'emprunter. Mais si ça avait été Shabbat, par exemple, si on faisait le 10 Minatora qu'on faisait, c'est obligé de le posséder. Or, la possession, c'est l'expression même de l'individualité, l'individu. Donc, on voit que les Arba Minim, non seulement ils expriment dans leur nature les différences individuelles, mais même dans leur législation, le fait de posséder l'idée de possession, ça c'est l'arba minime. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, c'est mes arba minimes, c'est à moi. Et le mien il est beau, et le tien il est moins beau, et mon l'avait que comme ça. Donc chacun il s'approprie. Alors que la souka, c'est exactement l'inverse. Une souka, elle n'est pas obligée d'être à soi. On peut avoir une souka collective, la souka communautaire. Et tout le monde peut rentrer dans la souka sans rien demander, il n'y a rien à payer. On fait partie du groupe. Donc il dit justement, cette fête de Soukhot, elle met en relation les deux tensions d'un individu, dans le cas Israël, l'individualité et la collectivité, Soukha et Loulav. Et il dit, sur le deuxième paragraphe, alors pourquoi ça a cette forme, c'est intéressant, le texte il a cette forme-là, je vous ai coupé parce que dans les côtés, chacun des ouvrages a été annoté par cet élève-là, le fils de celui qui est mort en vélo, là, Abba Weingorf, il a annoté tous les textes de son maître, d'accord ? Et il a mis des notes et des développements sur tous les textes. Mais bon, comme c'était des développements qui étaient hors sujet, donc je ne les ai pas mis, il était sur la Shemitah, etc. Ok ? C'est-à-dire qu'il développe à partir de ça qu'en réalité, le droit de possession dans le peuple juif, il a aussi ces deux axes. Il y a l'axe de la possession individuelle pendant les 6 ans, ou pendant les 49 ans, où on a sa possession. Enfin, il y a la Shemitah et le Yovel. D'accord ? Le Yovel, la Shemitah n'enlève pas la possession définitivement, mais pendant la Shemitah, la récolte n'est plus à moi, le terrain est à moi, mais la récolte n'est plus à moi. Et alors, encore pire, au Yovel, à la 50e année, même le terrain n'est plus à moi, il revient à ses anciens propriétaires. Donc on a de nouveau cette double tension entre la volonté d'acquérir des biens pendant les 6 ans ou les 49 ans, et puis après la redistribution des biens. Et donc il dit qu'il y a cette tension dans le peuple juif, où ça fait partie, on est à la fois un peuple très individualiste et un peuple très collectif. C'est-à-dire qu'à la fois, on recherche la progression, et je veux faire, et je veux avancer, etc., pour moi, et les mitzvot, et à la fois, on a cette obligation d'être dans le cadre collectif. Il dit cette double tension, il faut le voir comme ça, eh bien ça, c'est la symbolique de la fête de Soukhot. Ok ? Il dit « Gamba Midbar ». Je suis au deuxième paragraphe, même dans le désert, Ayushne Kavimelu, il y avait ces deux lignes de tension, on va les appeler comme ça. Mitzad Echad, d'un côté, Aman. Alors, c'est des idées qui peuvent vous sembler très simples, mais qui sont fondamentales, qui ont beaucoup d'impact, en fait, sur notre relation au peuple, etc. Et c'est pour ça, quand il a dit qu'on a des variations, d'accord, dans nos états d'âme, on a des variations dans les quatre espèces et on a des variations entre Souka et Loulav. C'est qu'à la fois, des fois, on est très tenté par l'individualisme, d'accord ? Je m'occupe, ma progression, je vais terminer 3 gmarot, je vais être le meilleur de l'Ishiva, je vais. Puis d'autres fois, on lâche la bride ou bien non, on a plus de largesse d'esprit et on dit, bon, mais c'est vrai, il n'y a pas que moi. Le groupe compte et ma progression sera la progression du groupe, d'accord ? Et on voit que c'est quelque chose qui est fondamental dans le peuple juif. Il y a des grandes sommités, mais qui s'abaisse, d'accord, pour pouvoir faire progresser le groupe. Et ça, c'est spécifique du peuple juif.
Je veux dire, c'est que c'est presque normal d'avoir ces variations.
Oui. Chazak, bien dit, voilà. Et c'est très important de dire ça. Parce que quand on se trouve face à ces variations, surtout dans les celles d'Arabat Aminim, tu dis, ça, je suis down, je ressemble à une Arava. C'est pas grave, il y a des jours comme ça. Il y a des jours, ça, c'est ce qu'appelle, bon, il y a un très grand ravolveu là-dessus, qui s'appelle Yemea Sin'a, mais Yemea Aliyah, les jours de la haine. C'est très puissant. Vous voyez, il y a des jours de la haine. Tu te lèves des matins, il y a la haine. C'est très fort, la haine. Le mot haine, c'est très brutal. Ça veut dire, tu vas tuer tout le monde autour de toi, ne me parlez pas de Tfilin, s'il vous plaît. Hein. C'est pas le moment de me casser la tête. Alors, je vais les mettre, parce que j'ai jamais raté un jour. Et je vais continuer mon daf, parce que j'ai jamais raté mon daf. Et je vais quand même... Mais si c'était moi, il ne faut pas me parler, d'accord ? C'est là, on a la rage. Et c'est normal, et c'est intéressant. C'est la première fois que je vois qu'il dit que nous, quand on regarde l'arba minim, on voit l'autre. Voilà, il y a les quatre en face de moi, Ben Kemoun, Ben Soussan, Godelberg et Rothenberg. C'est les quatre là, d'accord, qui représentent le Etrog Lulav. Et moi, bon, moi, je sais pas, j'hésite entre là. Mais il dit non, c'est toi qui varie entre les quatre espèces. Ok? Alors il dit Gamba Midbar Ayushne Kavim Elou, même dans le désert, il y avait ces deux lignes de tension. Mitzad Echad, d'un côté, Aman, il y avait l'Aman, d'accord, qui tombait tous les matins. Et alors, l'Aman, c'est l'expression de l'individualité. Pourquoi? Alav Nema, parce qu'il est dit Tzadikim Yarad Al Petach Batem. Pour les Tzadikim, l'Aman, elle tombait à la porte de leur tente. Benonim, pour les Benonim, Yatsou Velaktou, ils étaient obligés de sortir, de faire quelques pas pour la ramasser. Rechaim, et les Rechaim, Chatou, ils étaient obligés de faire des kilomètres pour la ramasser. Donc, la manne, elle est cette expression de la valeur individuelle de chacun. Arekol Yachid, les Fichiou, Amiouchad, chaque particulier, c'est suivant sa mesure. Omeidar, de l'autre côté, Amouda, Ejman, Alekavot, il y avait la colonne de feu et les nuées, les colonnes de nuées, qui sont d'ailleurs la souka, je vous rappelle. On fait la souka en souvenir des cabanes qui se sont construites dans le désert, mais aussi des colonnes de nuées. Et ça, ça entourait tout le peuple juif collectivement. Et les colonnes de nuées, elles entouraient les longues barbes comme les timbarbes, comme les sans barbes. D'accord? Donc ça, c'est le principe de la souka, la tension collective. La tension en deux mots. Vézé, il termine, minapla hot chez Oufla Amenu Israël Minahumot. Fait partie des prodiges par lesquels s'individualise le peuple juif parmi les nations. Chez la M Lonitan Sodze, à eux il n'a pas été donné ce secret. Sod à Shivouy, le secret de l'égalité ben Ayachid ve Atzibour, de l'égalité d'importance entre le particulier et la communauté. Sod, ce secret-là, Izun Amashkolet, de l'égalité de poids, d'importance, ben Aprat, entre l'individu, ve Amalchut et la royauté, le pouvoir. D'accord? Donc, c'est ce qui veut dire que dans le peuple juif, il y a ça, c'est ni communiste, ni royaliste. C'est entre les deux. Vous voyez, c'est ça qu'il veut mettre en avant. Le peuple juif, il est. C'est un peuple de communistes royalistes. C'est-à-dire, qui est même chez Notnim Letzad Ayachid. Parce qu'il y a des nations qui penchent du côté du particulier. Pardon. Qui même chez Notnim Letzad, qui penchent du côté de deux points, Ayachid ou Bishvil Amdina. Voilà. D'exprimer qu'en réalité, le particulier, il est là pour la Médina. Il est là pour aider le pays. D'accord? Système communiste ou socialiste ou. Bon, tout ce que vous voulez, on est sans faire de politique. Oui, au kibbout, si tu veux. Veyesh même shomrim, et il y en a qui disent non, à Medina ibishvil ayachid, que non, c'est l'État qui est là pour le particulier, c'est le particulier qui a à mettre en avant. Veilu etzlenu, mais pour nous, kol yachid ou keolam shalem. Dans le peuple juif, chaque particulier c'est un monde. C'est-à-dire que chaque particulier c'est un État. En lui-même, il a une valeur, on s'en fiche du reste du peuple juif. Chaque particulier, c'est un monde à part. Mais Idar, d'un autre côté, Auma Kula, le peuple en entier, Ike Adam Yachid Shalem. Il est comme un homme en entier. Ça veut dire comme la nation, elle est constituée de tous ces individus. Et c'est ça qui forme l'ossature de la nation. Ikneset Israël, ce qu'on appelle l'Assemblée d'Israël, chez Kol Yachid Misraël, ou Etzla Ever Shan Shamat Luyaba. Que chaque particulier, il est un membre dont l'âme dépend. C'est une expression que dans tout ce qui est très fa, etc. Que chaque particulier, il est en fait l'âme, il est une pile qui fait marcher l'ensemble de la machine. Donc ça veut dire que cette fête de Sukkot, elle symbolise ça, et en réalité c'est aussi important. On arrive après Kippour, d'accord? Or Kippour, c'est aussi cette difficulté, où Kippour c'est à la fois une fête très individuelle et une fête très collective. C'est-à-dire, on est là sous notre talit, en train de tabasser nos fautes, d'accord, sans savoir ce qui se passe autour de nous. Mais à l'inverse, ce pardon, il doit être collectif. On est obligé d'être ratanou. Nous avons fauté tous ensemble. C'est-à-dire, nos fautes individuelles ne seront pardonnées que dans le cadre du collectif. Donc, il y a cette tension dans la ira, dans la crainte, qui est cette tension entre l'individuel et le collectif dans Kippour, eh bien, une fois qu'on a terminé ça, on reproduit ça dans la simcha. Il y a la simcha individuelle et la simcha collective. Et la simcha individuelle s'est exprimée par les quatre espèces et la simcha collective s'est exprimée par la soukha. Et ça, c'est cette double tension qui traverse le peuple juif dans tous ses états et qui traverse même chaque individu en réalité à chaque moment de sa vie. Donc il dit voilà pourquoi. Et en réalité, c'est pour ça que je vous ai fait toute l'introduction ésotérique, si on creuse, on creuse, en fait, c'est juste une expression, on va dire, intellectuelle, c'est un grand mot, mais on va dire intellectuelle des notions ésotériques qu'on avait vues d'avant. Quand on avait parlé de Or Penim et Or Makif, la lumière intérieure et la lumière extérieure, c'est simplement une expression ésotérique des mêmes idées. D'accord ? Les lettres du nom d'Hachem, d'accord ? Quand on voit ça, on dit « Oulala, c'est de la Kabbalah, et la Gematria, et le Yud, et le E, et le Vav, ils nous ont embarqués dans la grammaire. » Oui, c'est parce que c'est un langage, c'est une langue ésotérique. Mais en fait, cette langue ésotérique, elle recouvre les mêmes idées qu'il expose le Rav Weinberg, mais sous une langue ésotérique. D'accord ? Et en réalité, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Qu'il ne faut pas avoir peur quand on voit des trucs de Kabbalah et des 26 et des 32, etc. Il faut les retraduire dans une langue audible. D'accord ? Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, que retraduire le Yud, le E, le Vav et le E, d'accord, ça te fait peur, dire, oulala, l'aide du nom de Dieu, ça c'est pas des trucs pour moi. C'est vrai, pas aujourd'hui. Mais il suffit de te les traduire et c'est accessible même pour toi aujourd'hui. D'accord ? Donc en vérité, c'est exactement ce que dit le Midrash quand on dit les poupées russes. Le pshat, le remèche, le drash et le sod. D'accord ? Il y a le pshat, le sens littéral, le sens allusif, le sens narratif et le secret, la mystique. D'accord ? En fait, souvent on dit, on les expose comme des notions indépendantes. En réalité, ce n'est pas du tout ça. Ce sont des notions qui s'emboîtent les unes dans les autres. C'est simplement une expression de la même idée avec une langue différente. D'accord ? C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir de différence de sens entre le pshat et le sod. C'est le même sens, simplement, à pas avec la même expression. Vous voyez, le pshat, il dit une chose dans une langue littérale, et le sod, il va te dire la même chose dans une langue mystique, ésotérique. D'accord ? Et c'est ce qu'on voit ici, enfin, c'est ce que j'ai essayé un peu d'exprimer, que cette idée que la soukha, c'est l'or makif, et le loulav, c'est l'or pénimi, les quatre lettres du nom de Dieu, etc. Dès qu'on voit ça, on dit, bon, c'est beau, quoi. Mais ça veut rien, au départ, ça veut rien nous dire. Alors que quand on l'exprime dans une langue plus adaptée, on va dire, à notre éducation, eh bien, on pourrait relier les poupées russes. Voilà, et ça nous a permis de découvrir un très grand maître du peuple juif, le Rav Yechiel Yaakov Weinberg. Kitchabes. Et bon, mon soukot. Quoi, Gérard ?
Il y a un rapport entre les quatre personnages de la Gada, ça.
C'est possible, les quatre personnes à Gada, certainement, puisqu'on a les quatre espèces se recouvrent, les petites barbes, les grandes barbes, les sans barbes. Donc ça recouvre aussi certainement les quatre.
Comment tu les places ?
Eh bien, s'il y a le Chacham, le Tam, je ne saurais pas. Je ne sais pas. Mais probablement qu'il y a. De toute manière, chaque fois qu'il y a, un lien, par exemple, dans Kippour, une année on l'étudiera, mais dans Kippour, vous avez il y a cinq prières dans Kippour. Il y a Arvit, Shaharit, Mincha, Arvit, Shaharit, Moussaf, Mincha et Neila. D'accord ? Les cinq prières sont en relation avec les cinq parties de l'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, et sont même en relation avec les cinq interdits, manger, les chaussures, etc. D'accord ? Donc, les choses s'emboîtent, c'est exactement ce qu'on a dit, l'emboîtage des choses. Et donc, des chiffres qui sont similaires ont probablement un lien. Donc, je ne peux pas te dire comme ça parce qu'il faut réfléchir comment les articuler, mais c'est probablement que c'est un lien, les quatre et les quatre. C'est bon ? On met off ? Tu veux que je t'enregistre, Michel ?
Non.
Michel Chavez.
C'est dans l'off que